Orient Hebdo, Éric Bataillon.
C'est un thriller géopolitique autant qu'un roman d'espionnage qui en dit long sur les coulisses du renseignement international. Raven, le pacte du Qatar, de Marc Échinger, publié chez Plon, raconte comment le gouvernement israélien a été infiltré par les services iraniens par le biais d'une unité spéciale affiliée au Hezbollah libanais. Le récit évoque un certain fichier informatique, Raven, qui recense le nom de toutes les personnes ayant reçu des pots de vin du Qatar, révélant une corruption mondiale. Un fichier protégé par les services qatariens jusqu'au jour où un acte de piratage en fait fuiter une partie, promettant d'être le plus grand scandale international du XXIe siècle. De l'Afrique au Yémen, de l'Iran à l'Ukraine, l'auteur nous tient en haleine et multiplie les révélations. Cet entretien est à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ainsi que sur notre application Pure Radio, application à laquelle vous pouvez vous abonner. Bonjour Marc Échinger.
Bonjour Eric.
L'opération Raven, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une opération qui a été initiée par les Émirats Arabes Unis à peu près en 2010-2011. Elle a pris différents noms, mais on la connaît en tant qu'opération Raven. Elle a été initiée par une société qui s'appelait Dark Matter. Et tout ça, c'est une création des services émiratis qui voulait avoir un petit équivalent de ce que fait la NSA aux États-Unis, donc les grandes oreilles américaines. Ils voulaient aussi pouvoir écouter des journalistes, des gens des ONG, et puis leurs ennemis, enfin ce qu'ils considéraient comme leurs ennemis, donc le Qatar, un petit peu la Turquie, les pays qu'ils considéraient comme étant hostiles. Et donc ils ont utilisé un outil qui s'appelait Karma, qui venait de la NSA, et des employés qui venaient de la NSA aussi, qui ont été payés une fortune. Ils étaient payés $1 million par an quand même, net d'impôts. Et ils ont hacké les serveurs du Qatar, entre autres. Ils ont hacké les téléphones, etc., de personnes physiques qui travaillaient dans des ONG et autres. Ils ont collecté une masse de documents énorme. On parle de téraoctets de données. Et de ces téraoctets de données, il y a eu deux groupes. Il y a eu les éléments qui étaient relativement peu intéressants et il y a les fichiers noirs, c'est les fichiers de la corruption, c'est les fichiers du Qatar. Il faut savoir que le Qatar, c'est une ancienne colonie britannique et que dans la méthodologie administrative qu'ils ont gardée, bah, tout est documenté parce que à chaque fois qu'il y a un mouvement de fonds, on fait une lettre, on explique que l'argent va d'un endroit à un autre, que c'est du cash ou pas, etc. Et ils ont tellement peur au niveau du Qatar qu'on leur reproche d'avoir pris un peu d'argent dans les caisses de l'État, qu'ils documentent en vraiment détail. Et donc, à chaque fois qu'il y a une demande de verser de l'argent pour la corruption, bah, toutes les lettres se suivent, on peut suivre l'argent jusqu'au plus près.
À quel moment précisément cette opération Raven dérape-t-elle ? Et qu'est-ce qu'elle met en évidence aussi précisément ?
Alors, elle dérape à peu près en 2016, au moment où ça devient un peu trop, où on commence à écouter des journalistes, on commence à s'attaquer à des membres des ONG. L'agression informatique vis-à-vis du Qatar, on peut la considérer comme étant légitime, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a eu une énorme corruption. Et il y a eu aussi, au passage, la guerre en Libye et la guerre en Syrie. Et les témoignages commencent à affluer sur ce qui s'est passé. Et donc tout ça fait que ça tourne mal, que les employés de Dark Matter aussi se sentent pas très à l'aise et ils vont commencer à parler à la presse. Reuters va faire un dossier assez complet. Certains employés vont être poursuivis par la justice américaine pour avoir aidé une puissance étrangère avec du matériel qui provenait de la NSA puisqu'ils avaient utilisé l'outil Karma. Et donc ils seront condamnés à des peines de bricole. Hein. Ils vont, ça sera vite mis sous le tapis. Et il y aura des fuites. Et donc là, les fuites, évidemment, ça va nous permettre à nous d'être informés sur ce qui s'est passé en Libye et en Syrie. Et moi, personnellement, je vais pouvoir croiser ces fuites avec des témoignages sous serment de personnes qui sont allées voir les tribunaux et qui ont témoigné de ce que le Qatar faisait comme activité corruptive. Et là, on apprend énormément de choses. Quand on arrive à croiser tout ça, c'est exceptionnel.
Marc Échinger, dans votre livre Raven, le pacte du Qatar, publié chez Plon, il est question d'un piratage de l'ordinateur du ministre israélien de la Défense. Alors, compte tenu des capacités informatiques et technologiques d'Israël, est-ce vraiment possible?
Alors, cette opération a vraiment lieu. Je la cite, c'est là où il faut bien comprendre que mes romans, ce sont des faux romans, puisque j'utilise la réalité comme support. Et simplement, le fait d'écrire sous forme de roman, ça me permet de toucher un plus grand nombre. Mais pour revenir sur cette opération, il y a eu effectivement une personne qui avait fait 4 ans de prison suite à une attaque à main armée et qui avait été employée dans une société de nettoyage. Cette personne avait réussi à être désignée pour faire le ménage dans la maison particulière de Benny Gantz alors qu'il est ministre de la Défense. Et donc, il n'y a pas eu de sécurité vis-à-vis de son embauche quand il a travaillé au niveau de la maison personnelle de Benny Gantz. Et cette personne, on lui a demandé de mettre une clé USB dans l'ordinateur personnel de Benny Gantz, et cette clé USB a pompé les données qu'il y avait dans l'ordinateur. Cette opération-là a été initiée par les Iraniens.
Oui, justement, vous
Et
décrivez une structure légère d'espionnage iranienne qui
absolument,
est-ce
absolument.
possible là encore?
Tout à fait, tout à fait. Les Iraniens ont fait d'énormes progrès et donc ils ont infiltré Israël à différents niveaux. En fait, ils se sont servis, pour vous donner une idée à quel point c'est dérisoire, la rémunération de cet homme qui a été maintenant emprisonné, hein, ça a été quelques milliers de dollars. On parle de vraiment de très peu. Et le génie, en fait, des services iraniens, c'est de se dire, bah voilà, on va aller chercher dans la population la plus déshéritée, dans les plus pauvres, sans que ce soit des religieux, on va aller chercher dans cette population-là des yeux, des oreilles, un moyen d'infiltrer la société israélienne. En plus, les services iraniens ont des hackers, et je cite Mozostaff, c'est un groupe de hackers qui a aussi donné beaucoup de fil à retordre à Israël. Ils ont des hackers efficaces, et donc il y a eu une vraie pénétration des structures israéliennes, comme un peu plus tard aussi, il y aura une pénétration des structures de sécurité, mais là, c'est grâce à la corruption du Qatar. C'est autre chose.
Alors, dans le livre, vous évoquez les hirondelles, sont des jeunes
Oui.
femmes entraînées pour le renseignement. Qui sont-elles généralement et qui les forment?
Alors, c'est un groupe qui est bien réel, qui a été formé par le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est une armée d'élite. Comment je justifie le mot élite? C'est aussi dur de rentrer dans le Hezbollah que de rentrer dans la Légion étrangère. La Légion, c'est à peu près 10 à 15% de personnes qui arrivent à intégrer la Légion par rapport aux candidats. Le Hezbollah, c'est à peu près la même chose. Il y a un service de sécurité d'intelligence très important au Hezbollah. Ils ont eu l'idée de former des femmes, et donc ils les ont formées avec tout ce qu'il fallait dans une formation militaire.
Des femmes de quelle
Après,
origine? Ce sont des...
alors, elles peuvent être libanaises, elles peuvent être palestiniennes, elles peuvent être, bon, c'est sûr que c'est des femmes principalement d'origine du monde arabe. Le fait est que ces femmes, après avoir subi leur formation au Liban, sont envoyées en Europe. Et elles sont envoyées en Europe, et là où c'est tragique, c'est qu'elles sont envoyées dans des bordels aux Pays-Bas et en Allemagne, mais notamment aux Pays-Bas où le Hezbollah est fort. Hein. Le Hezbollah, il est fort en Allemagne et aux Pays-Bas. Et là, elles sont déshumanisées. C'est des armes parfaites, on va dire. Et moi, j'ai eu la formation qui m'a été confirmée aussi à Bagdad, en fait, par un membre des services irakiens. Et il était chiite, donc je me suis dit, mais vous n'êtes pas menacé par ça? Et il m'a dit, si, si. Même nous, on en a peur parce qu'on ne les verra pas venir.
Dans un des premiers chapitres du livre, Marc Échinger, vous évoquez l'assassinat du général iranien Soleimani en Irak le 3 janvier 2020. Aurait-il été lâché par son propre gouvernement en raison de sa trop grande popularité?
Moi, je pense que c'est fort possible. Et j'ai toujours un doute à ce niveau-là. Donc, c'est ce que j'évoque dans le roman. Et je vous donne un exemple pourquoi c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on n'aide pas les Iraniens, on n'aide pas malheureusement ces pauvres femmes, parce qu'on sait que l'Iran, c'est 16 ethnies différentes, que si les mollahs tombent, on a un risque d'éclatement extrêmement fort. Ils veulent tous, que ce soit les Kurdes, les Balouches, les Qaxqaïs, etc., ils veulent tous leur indépendance. Et donc, s'il n'y a pas une main forte, on a un risque d'éclatement sur l'Iran qui est extrêmement fort. Et donc, Soleimani, il était capable de maintenir le pays. Avec lui, on pouvait faire tomber les mollahs et il aurait pris le relais, c'était à peu près possible. Donc pour le régime des mollahs, il est à la fois un symbole qui est très fort dans la rue, un symbole qui tient l'armée, il est inattaquable sur son passé, et potentiellement, on aurait pu, l'Occident, lui parler, bien que ça soit pas quelqu'un de très facile. Hein, faut pas... Le scénario aurait été possible. Et en tout cas, il faisait de l'ombre aux mollahs, parce que son aura était importante. Et vis-à-vis de la rue, on voit bien que la rue maintenant se retourne contre les mollahs, mais ils auraient sans doute hésité à se retourner contre un héros national qui est Souleymane et qui incarne beaucoup de choses. C'était quelqu'un d'extrêmement malin qui savait très bien jouer sur son image de marque, qui était d'ailleurs parfaitement méritée.
En évoquant cette affaire, vous suggérez qu'il y aurait au sein des services de renseignement iraniens une cellule secrète totalement méconnue, y compris des services iraniens eux-mêmes. Une telle structure existe-t-elle en réalité ?
Alors, en réalité, non, ça, c'est pas possible. C'est la partie roman. Autant je mets 80-90% de vrai la plupart du temps, autant là, il y a une petite partie de roman. Mais la personne que je mets en avant, c'est quelqu'un que j'ai vraiment côtoyé et qui m'avait surpris parce que c'est un ancien ambassadeur. Et je peux pas en dire trop. Il avait un double visage et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Mais ça, par contre, je peux pas en dire trop. Ça reste classifié.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI, mise en onde et réalisée chaque semaine par Mathias Golchani. Et nous sommes en ligne avec Marc Échinger, expert financier et lanceur d'alerte, pour son livre « Raven, le pacte du Qatar » publié chez Plon. Marc Échinger, votre livre nous emmène en Afrique, puis au Yémen, et vous décrivez plusieurs opérations de renseignement qui généralement se terminent plutôt mal pour la plupart des belligérants. Diriez-vous que cette guerre des services est constante et sans pitié ?
Absolument. Et vous n'avez pas idée à quel point ça peut être lourd de conséquences. Et là, vous voyez, si on prend l'exemple de l'opération Barkhane qui est mentionnée dans le livre, il est vrai que lors de l'opération Barkhane, il y a eu un détournement de fonds au niveau du ministère de la Défense nigérien de 100 millions d'euros équivalents. Et on n'a rien fait pour l'empêcher, ce qui, moi, m'a mis vraiment hors de moi, parce que moi, j'y étais, j'ai fait 7 ans au Niger, et j'ai vu les détournements de fonds dans ce pays qui l'ont mis nous. Donc ça ne m'a pas du tout surpris quand on a voulu mettre la France dehors, puisque tous les réseaux de détournement de fonds étaient français. Et donc tous les rapports sont faits, mais il ne se passe rien au bout sur le plan de la justice. Donc le désastre, on le voit arriver, on essaie de l'empêcher, et pour autant, on ne peut rien faire. Et c'est pareil dans d'autres pays. Les problèmes entre la collecte de l'information et l'usage qu'on en fait, c'est pareil dans beaucoup de pays. Récemment, je peux vous dire que j'étais à Tel Aviv et j'ai rencontré les anciens opérateurs du Mossad qui sont vent debout contre ce qui se passe. Il ne faut pas croire que les Israéliens sont derrière ce qui se passe. Tamir Pardo, qui est l'ancien patron du Mossad, il est absolument contre ce qui se passe depuis très longtemps sous le gouvernement Netanyahou, évidemment, depuis ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et derrière lui, il y a 200 officiers. Une guerre, c'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des zones de gris énormes. Voilà.
Après l'Afrique et le Yémen, l'action de votre livre se déplace en Afghanistan. Et vous estimez, dans le livre évidemment, que le retrait américain d'Afghanistan en 2021 a été catastrophique. Pourquoi ?
Alors, il l'est dans la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait en plein été. Et on sait qu'en Afghanistan, la partie de la guerre la plus dure, ça se fait de avril à peu près fin septembre. Et c'est comme ça depuis des siècles. Pourquoi ? Parce que l'absence de neige et les intempéries permettent de descendre très rapidement des montagnes. Or, les talibans étaient dans les montagnes. Donc, première faute, c'est d'avoir annoncé le retrait, déjà, et en plus de l'avoir exécuté au mois d'août. Une folie. On aurait attendu le mois d'octobre, c'était déjà beaucoup plus dur. En plus, les talibans sont descendus avec du cash et ils ont proposé à l'armée régulière afghane de déposer les armes en échange d'avoir un peu de cash et un certificat de bonne conduite. Et donc, ils n'étaient pas inquiétés. Et donc, ça explique pourquoi ils sont descendus comme ça sans combattre. Il y a une base importante aussi qui a été rendue aux talibans sans même qu'il y ait le moindre combat. Et donc, ils ont libéré des milliers de prisonniers. Un des prisonniers, le lendemain, a mis une veste suicide et est allé à l'aéroport. C'est ça ce qui s'est passé.
Et a commis un attentat. Vous décrivez également une opération très compliquée et dangereuse d'exfiltration d'agents américains et britanniques, je crois, d'Afghanistan, peu après la prise de pouvoir des talibans. Cette opération d'exfiltration a-t-elle vraiment existé ?
Absolument. Ça s'appelle l'opération Ananas, Pineapple. Hein, c'est une opération américaine. Et donc, il y avait dans l'enceinte du mur de l'aéroport une voie. Et c'est cette voie qui a été utilisée pour pouvoir exfiltrer des gens. Pourquoi ananas ? Parce que pour se faire identifier, il démontrait une image d'ananas. Le code, c'était ananas. Bon. Et donc, et moi, j'ai essayé moi-même d'exfiltrer une famille de Kaboul et j'ai contacté ces gens-là. Une des personnes que je connais depuis longtemps, qui est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un fils de pasteur sud-africain. Il était là-bas. Il a participé à l'exfiltration de beaucoup d'Afghans qui avaient travaillé pour les forces de la coalition. Il est resté après le départ des Américains et il a réussi encore à faire partir, je peux dire, des milliers de gens, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est plus de 1000. Et il s'est fait avoir, il est resté des mois et des mois en prison avant qu'on puisse le sortir de là. Il a beaucoup souffert des talibans. Ça fait partie des héros anonymes dont vous n'aurez jamais le nom et à qui il faut rendre hommage quelque part. Et moi, ça m'a fait plaisir en fait, de pouvoir parler de ça.
Dans le livre. Pour expliquer l'implication des services de renseignement israéliens en Afghanistan, alors vous évoquez, pages 195 et 196, une certaine tribu juive qui se serait réfugiée dans la région près de 300 ans avant Jésus-Christ. Tribu aujourd'hui islamisée, mais avec des traditions proches du judaïsme, c'est vrai ?
Absolument. C'est ce que les gens ignorent, c'est que dans le nord de l'Irak, les Kurdes étaient juifs jusque dans les années 50 et que Mollah Mustafa Barzani, le père du président Barzani, était un agent du Mossad qui a fait la plus belle opération d'ailleurs du Mossad depuis très longtemps. Et donc maintenant, il ne cache plus cette attache avec Israël. Et au niveau de l'Afghanistan, donc il y avait les Pashtuns. Les Pashtuns, à la base, c'était une tribu juive. Et donc, ils se sont convertis il y a à peu près, de mémoire, 400 ans. Mais il y a toujours des synagogues en Afghanistan. Avec le tremblement de terre qui a eu lieu, elles ont peut-être souffert parce qu'elles étaient anciennes et il y avait un programme de restauration. Je ne sais pas exactement où on en est, mais vous avez des mezouzas, vous avez des étoiles de David, vous avez des cimetières juifs en Afghanistan. Et il n'y a pas de haine à ce niveau-là entre les Pashtuns et les Juifs en soi. Il n'y a pas de difficulté. D'autant que les Afghans aussi et les Pashtuns ont été assez maltraités en Iran et qu'entre l'Afghanistan et l'Iran, il y a 912 km de frontières poreuses. Et donc, une population qui va en Iran et qui est traité comme un esclave et qui revient en Afghanistan et qui est encore maltraité, etc., ça vous donne autant de possibilités d'avoir des interlocuteurs. Pour tous les services de renseignement, c'est intéressant, mais c'est difficile, c'est difficile.
Alors, après l'Afghanistan, votre récit nous emmène en Ukraine avec, là encore, une présence du renseignement israélien étonnante sur les traces d'un virus et de doryphores. Il est question de la mafia ukrainienne, de l'armée russe, de l'or du Soudan et du financement du Qatar. Qu'y a-t-il de vrai dans cela ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que les Ukrainiens avaient, pour beaucoup au niveau des dirigeants ukrainiens et de la mafia ukrainienne, avaient un double passeport russe et ukrainien. Et il y a une activité de conjointe avec la mafia russe qui est toujours présente. Il faut savoir que sur les armes qu'on envoie, et ça je le développe dans le livre, à chaque fois que vous envoyez, mettons, 10 fusils, il y en a 5 qui vont partir au marché noir, qui n'arriveront jamais sur site. Il y a eu aussi quelque chose qui, moi, m'a fait très peur, c'est le port d'Olvia. Le port d'Olvia, c'est un port qui est à côté d'Odessa, c'est pas très grand, c'est un petit port, mais il est dédié au trafic d'armes. Depuis Kennedy et les missiles de Cuba jusqu'à nos jours, le port d'Olvia, c'est le port par lequel la mafia russe-ukrainienne, la mafia de l'armement, charge des armes sur des bateaux et envoie ses armes sur tous les lieux de conflit africains, moyen-orientaux, etc. Donc tout le monde utilise ça, c'est des courtiers en armement, ils utilisent le port d'Olvia, ce port est dédié à l'armement. Et donc les missiles de Cuba, par exemple, pendant la crise sous Kennedy, venaient du port d'Olvia. Toutes les armes qui ont pu débouler des pays de l'Est sur les crises africaines venaient du port d'Olvia. Et donc ce port d'Olvia a été racheté quelques mois avant l'invasion russe, il a été racheté par le Qatar. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire comme actionnaire principal ? Aujourd'hui, ça s'appelle Q Terminal, Qatar Terminal, et ce port est en activité. Et donc, je trouvais ça particulièrement angoissant. Après ce qui s'est passé en Libye et en Syrie, je me suis dit, bon, si on leur donne la main sur le port d'Olvia, d'abord, à quoi ça correspond ? Je pense que ça ne va pas plaire du tout aux Russes. Si on leur prend Olvia, c'est sûr que la réaction, elle est immédiate et que ça tourne mal. Curieusement, vous remarquerez que personne n'a parlé du port d'Olvia dans la presse internationale au moment du conflit, alors que tout le monde sait que c'est quelque chose de majeur dans le monde de l'armement. Et moi, j'ai demandé à des spécialistes qui ont vraiment les passeports russes, ukrainiens, qui connaissent très bien le terrain, et ils m'ont dit, Marc, tu peux aller en Ukraine, on va s'occuper de toi en Ukraine. Tu peux aller en Russie, on va s'occuper de toi du côté russe. Si tu vas à Olvia, tu es mort.
Et je n'irai pas à Olvia.
Voilà.
Merci Marc Échinger.
Merci à vous.
À lire votre roman d'espionnage, Ravenne, le pacte du Qatar, publié chez Plon. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau journal.